Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Deuxième heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi et comme chaque heure, ça démarre par un coup d'œil sur les marchés. Mickaël Jacobi nous attend sur Odo BHF, bonjour Mickaël. Mickaël, vous nous entendez?
Allô?
Oui, bonjour Mickaël.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien, merci beaucoup. Le marché, visiblement, se porte à merveille également, donc tout va bien.
On a bien digéré la BCE ?
Tout à fait. Alors, effectivement, ce sont les luttes contre l'inflation qui sont en devant de l'actualité ce matin, et avec, bien évidemment, un segment bancaire qui tire les différentes bourses très fortement à la hausse, donc bénéficiaire en premier lieu de ces hausses de taux, face également à des valorisations très attractives, hein, il faut le dire, on est face à des multiples historiquement extrêmement basses, et de ce fait, on a tout ce segment bancaire, financière, très fortement en hausse, avec BNP en premier lieu quasiment 4%, on a Société Générale à 3,90, Crédit Agricole presque à 3%, donc on est effectivement dans un segment clairement en fait à la suite de ces déclarations de la BCE et de la Fed de lutter contre l'inflation avec une hausse des taux, et on a de façon générale, je pense, une espèce de petit relief rallye aujourd'hui après qu'on ait eu des inquiétudes peut-être de hausse des taux plus marquée, donc aujourd'hui on essaye de respirer un petit peu. En revanche, et je suis donc les intervenants précédents, on est néanmoins face à dans une phase où les volumes traités sur les marchés sont toujours assez anecdotiques.
Voilà donc pour la tendance générale. Un coup d'œil sur les banques également.
Tout à fait. Donc, comme je le disais, on est face à des annonces faites qui bénéficient très fortement au segment bancaire, que ce soit le segment français ou tout simplement européen et international. Donc, tout ce segment est clairement marqué à l'achat aujourd'hui. On a donc un effet très bénéficiaire sur le PNL des banques à venir dans un contexte de taux où effectivement les banques auront moins de difficultés à dégager des bénéfices, et de l'autre côté, des valorisations historiquement faibles de ces valeurs bancaires, ce qui fait que cela donne aujourd'hui envie très fortement d'en acheter.
Voilà pour ce secteur bancaire, et puis on termine avec un coup d'œil que vous voulez nous proposer sur Interparfums.
Oui, alors Interparfums a proposé aujourd'hui des résultats du premier semestre qui sont clairement au-dessus des attentes. On a des résultats annuels qui sont confirmés en estimé pour l'année pleine, et on annonce également chez Interparfums quelques acquisitions à venir. On est face donc à un monde plutôt parfait, hein, chez Interparfums, qui progresse aujourd'hui légèrement au-dessus du marché. Alors le marché est très fortement à la hausse, hein, 1,77% pour le CAC, et Interparfums progresse aujourd'hui autour de 2% face à ces bons résultats et les bonnes nouvelles clairement chez Interparfums.
Tout cela dans un marché qui progresse d'1,75% ce matin, 6233 points. Merci beaucoup Mickaël Jacobi, en ligne avec nous depuis Odo BHF. Tout de suite l'info éco avec Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, la réunion des ministres européens de l'énergie aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 vont examiner les propositions de la Commission destinées à atténuer l'envolée des factures de gaz et d'électricité. Au cœur des débats, les dysfonctionnements du marché européen de l'électricité, mais aussi un mécanisme de plafonnement des revenus des producteurs d'électricité. L'objectif pour les ministres, ce sera de se mettre d'accord d'ici la semaine prochaine sur un texte suffisamment consensuel pour être adopté rapidement. Rapidement parce qu'il qu'il y a urgence. L'inflation des prix de l'énergie va provoquer un fort ralentissement de l'activité en 2023. C'est ce qu'affirme le gouverneur de la Banque de France ce matin sur BFM Business. François Villeroy de Galhau estime que la croissance va résister cette année, mais selon lui, les entreprises vont ensuite être confrontées à de multiples problèmes d'offres dès l'année prochaine, difficultés d'approvisionnement, de recrutement et bien sûr flambée des factures d'énergie. Résultat, la Banque de France n'exclut pas une récession limitée en 2023. En France, toujours, la baisse des impôts de production pourrait prendre plus de temps que prévu. Selon les Échos, le gouvernement envisage finalement d'étaler la suppression de la CVAE sur 2 ans. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises devait initialement disparaître d'un bloc en 2023, mais face à la détérioration des finances publiques, l'exécutif pourrait revoir sa copie. Cependant, rien n'est encore arbitré ni décidé, tempère le ministère des Comptes publics. Merck va créer 800 emplois en France d'ici 2028. Le laboratoire pharmaceutique allemand investit 130 millions d'euros dans son usine alsacienne de Molsheim. Il souhaite notamment y doubler sa production de poches de vaccins. Et puis enfin, l'actualité ce matin, c'est également l'hommage mondial et unanime à Elisabeth II. Minute de silence à l'ONU, tour Eiffel éteinte, drapeau en berne également à la Maison Blanche. Les marques de respect se multiplient partout dans le monde après le décès de la souveraine à l'âge de 96 ans. Elle laisse sa place à Charles III. Le nouveau roi doit s'exprimer dans les prochaines heures avant de s'entretenir avec la première ministre Liz Truss.
Merci beaucoup Raphaël. Dans un instant, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Geoffroy Lenoir, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Aviva Investors France et Loïc Bécu, bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Siena Gestion. D'abord, votre sentiment au lendemain de cette décision de la Banque Centrale Européenne. Comment avez-vous finalement accueilli ces 75 points de base? Bon, ils étaient attendus, mais pas assurés, on va dire. Loïc, comment vous avez vu les choses hier?
C'était plutôt, je dirais, une bonne chose, parce que nous, ce qu'on veut finalement sur les marchés financiers, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible pour que la douleur soit la plus courte possible. Mais à côté de ça, c'est peut-être allé un peu rapidement en besogne, mais je pense que derrière tout ça, il y avait quand même une volonté de finalement essayer de renforcer un peu l'euro, notamment vis-à-vis du dollar, parce que comme vous le savez, l'ensemble des prix de matières premières se payent en dollars. On a un euro qui a perdu quasiment 12% de sa valeur par rapport au dollar. Donc il faut absolument que l'euro remonte un petit peu pour qu'on paye ces matières premières un peu moins chères, pour évidemment, parce que c'est un deuxième effet sur l'inflation européenne.
Geoffroy, même question. Hier, quand vous avez vu tomber cette confirmation des 75 points de base, vous vous êtes dit quoi ?
Plutôt comme attendu. En fait, 75 points de base, c'est vrai qu'il y avait toujours cette
c'est quand même la plus forte.
C'est entre 50 et 75 points de base. Oui, c'est la plus forte depuis l'ère de la zone euro. On n'avait jamais vu 75 points de base, donc c'est historique de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai que c'était bien préparé par les banquiers centraux. On a une hausse de taux qui se justifie clairement par rapport au mandat de la Banque Centrale Européenne, qui est de lutter contre l'inflation. Et on se dit, enfin, la Banque Centrale Européenne agit, et agit fortement, et regagne pour nous en crédibilité par rapport au marché. Ça se voit aussi aujourd'hui... que ce soit sur les marchés actions, les spreads de crédit. On a vraiment une banque centrale qui se focalise sur son mandat principal, qui est la lutte contre l'inflation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
Mais ça, certains disent, et on l'a entendu notamment sur l'antenne et autres, que finalement, de ce côté-ci de l'Atlantique, vu l'inflation forte, certes, mais vu la typologie de notre inflation, une hausse de taux ne servirait pas contre cette inflation.
Alors ça, c'est l'éternel débat. C'est l'inflation, est-ce qu'elle vient de l'offre et de la demande? C'est sûr qu'aujourd'hui, ça vient principalement des matières premières, mais pas seulement. C'est vrai qu'on voit que l'inflation sous-jacente est très élevée par rapport à ce qu'on a connu au cours de ces dernières années. Il faut aussi que la Banque Centrale Européenne adresse ces sujets d'inflation sous-jacente. Il n'y a pas que les prix énergétiques. On voit que... Alors, il n'y a pas d'effet de second tour aujourd'hui sur les salaires, mais c'est vrai que c'est un risque aussi qui peut arriver. On voit qu'il y a toujours un effet assez long en termes de transmission des prix sur l'ensemble des biens et des services. Aujourd'hui, le risque est plus matériel que par le passé, donc il faut agir. Il faut agir non seulement en remontant les taux, mais aussi avec une politique claire et crédible, avec des anticipations que les investisseurs pourront ancrer par rapport à leurs propres investissements. Et c'est vrai que c'est ça qui manquait aujourd'hui dans le marché. Donc là, on a une vision un peu plus claire de la trajectoire de la Banque Centrale Européenne, qui a annoncé une série de hausses de taux à venir encore, même tout à l'heure, je crois qu'on a eu Monsieur Villeroy de Gallo qui a indiqué que le taux terminal était autour, enfin le taux neutre, pardon, faut faire attention aux mots entre taux terminal et taux neutre. Je crois qu'il y a eu aussi quelques sujets par rapport à ça hier lors de la conférence. Donc le taux neutre, c'est celui auquel la politique monétaire est restrictive ou non. Villeroy de Gallo a insisté sur le fait que le taux neutre était autour des 2%, un petit peu en dessous, et que la Banque Centrale Européenne devrait se diriger vers ce taux d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est un élément intéressant. Maintenant, on reste dans un territoire accommodant.
Bien sûr.
Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de ces 2%, on n'est pas dans une politique monétaire restrictive, donc il y a encore de la place.
Ouais. Moi, je pourrais juste rajouter qu'elle est tout à fait dans son mandat, parce qu'aujourd'hui, pour régler les problématiques d'inflation, la Banque Centrale, c'est son rôle. Son rôle, c'est de remonter les taux. En remontant les taux, elle rend le coût de l'argent un peu plus cher. En rendant le coût de l'argent un peu plus cher, ça vient dissuader peut-être des ménages de consommer ou des entreprises d'investir. Et une fois que ça ralentit, alors il faut évidemment qu'elle le fasse avec doigté, parce que le but, c'est pas non plus de provoquer la récession. Donc, elle doit remonter les taux progressivement pour impacter de façon, je dirais, légitime la demande sur les marchés via les ménages et via les entreprises et par la suite finalement avoir justement une vraie gestion avec doigté pour pas provoquer une récession, parce que le but évidemment c'est pas de mettre le pays en récession.
Oui, parce que ça c'est l'autre, c'est le pendant de cette première réflexion que je vous suggérais, c'est que certains doutent du fait que ça ait un rôle sur l'inflation, par contre tout le monde s'accorde à dire que ça va précipiter une récession.
Oui, c'est
donc aujourd'hui, on se dit que l'économie européenne ne peut pas échapper à la récession.
Alors c'est extrêmement important parce que d'après la Banque Centrale Européenne et les révisions qu'il y a eu en termes de projection de croissance, la Banque Centrale Européenne attend toujours une croissance à 0,9% pour 2023. Alors c'est vrai que cette estimation nous paraît encore un peu optimiste, un peu élevée, et c'est vrai que dans les modèles de la Banque Centrale Européenne, ça n'inclut pas forcément encore les ruptures d'approvisionnement ou les baisses d'approvisionnement du gaz russe. Donc c'est vrai que ça peut avoir ces ajustements dans le modèle de la Banque Centrale pour nous devrait encore inciter à une révision à la baisse des prévisions de la Banque Centrale Européenne. Et c'est vrai que la récession, c'est vrai qu'on... clairement, c'est dans tous les esprits, dans toutes les têtes des investisseurs aujourd'hui. C'est plutôt le degré, est-ce qu'on va pouvoir être dans une récession technique, passagère, ou une récession plus forte. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est là où il y a beaucoup de craintes sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dur d'être très positif, bien évidemment, et on garde plutôt une certaine prudence. Il n'y a qu'à voir les indicateurs de sentiment des investisseurs qui restent très, très dégradés.
Oui, parce que c'est vrai, comme la BCE, on manque quand même de visibilité, ce qui entraîne des incertitudes sur les prix de l'énergie. Est-ce que l'hiver sera très froid et aura un impact non négligeable sur les prix de l'énergie? On a évidemment la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, qui s'enlise, donc on a toujours ça qui est pas réglé. Et le dernier point, je dirais qu'il y a le reconfinement chinois qui a un impact non négligeable sur l'économie mondiale. Ça c'est à suivre et c'est des points sur lesquels pour l'instant on manque de visibilité, même si on a un peu plus de visibilité aujourd'hui sur deux points qui étaient importants. C'était le calendrier de remontée des taux des banques centrales et sur l'inflation.
Juste, est-ce qu'il y a une vraie question autour de l'euro? Parce que, et du coup, est-ce que ça met en jeu un peu la crédibilité de la banque? Parce qu'on la voit avoir mis donc 75 centimes sur la table. On ne peut pas dire que la réaction de l'euro ait été démesurément...
Il y en a une petite réaction.
Oui, une petite, on est à 1,00, hier on était à 0,99-80, enfin, donc ce n'est pas non plus un truc fabuleux. Il y a une problématique euro?
Il y a une problématique euro, c'est vrai qu'on a une Banque Centrale Européenne qui n'agit pas directement sur l'euro, qui agit à travers les taux directeurs. C'est vrai que ce qui a été intéressant dans le discours de Mme Lagarde, c'est que l'euro a été évoqué lors de son discours. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet immédiat sur l'euro. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet important, surtout contre dollar. On a un dollar quand même qui se tient très très bien. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, et notamment après dans toutes les allocations qui peuvent être directement ou indirectement corrélées.
Mais on va voir les conséquences pour les opérateurs. Mais
oui, parce qu'en fait, il y a tout intérêt pour les États-Unis d'avoir un dollar plutôt fort, parce que c'est contre-inflation, c'est désinflationniste d'avoir un dollar fort pour les Américains. Donc il y a ce premier point. Et puis le deuxième point, hier, ce qui a un peu annulé le rebond de l'euro par rapport au dollar, c'est qu'on a eu un interview de Jérôme Powell qui a redit une nouvelle fois qu'il allait remonter les taux de façon assez forte et que la priorité c'était l'inflation et pas la croissance américaine. Donc ça a pu.
Est-ce que justement ça pose pas une question de crédibilité pour la Banque Centrale Européenne ?
Elle essaye de corriger ça en augmentant ses taux, cette fois-ci de 0,75, alors qu'au début, on était plutôt persuadé que c'était 0,50.
Bon. Quelles conséquences, justement, pour les investisseurs de tout ça ?
Alors, pour l'instant, c'est vrai que... On voit tout de suite la réaction des marchés. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une réaction plutôt positive des marchés, que ce soit les marchés actions, les marchés de crédit. On voit les taux qui remontent, qui s'ajustent à la hausse, donc qui ancrent à nouveau des anticipations de hausse de taux de la Banque centrale plus élevées. On est plutôt sur un taux maintenant terminal, anticipé par le marché, autour des 2,25, 2,50 pour la Banque centrale européenne l'année prochaine. Donc c'est vrai que les taux s'ajustent. On a donc un marché obligataire qui offre des performances négatives. Donc c'est vrai que ça donne un peu plus d'informations sur la direction des taux. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive sur des niveaux de taux qui sont quand même, selon nous, proches d'un top de marché, on va dire, surtout aux États-Unis, plutôt qu'en Europe, puisque aux États-Unis, on a une banque centrale qui est en avance. Mm-hmm. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne est en retard par rapport à la Fed. Et aux États-Unis, on a surtout l'inflation qui peut commencer à montrer des signes d'affaiblissement, ou en tout cas de correction à la baisse dans les prochains mois, alors qu'en Europe, on a des chiffres d'inflation qui devraient continuer à la hausse autour des 10% ou au-dessus des 10% jusqu'à la fin de l'année. Donc on a cette séquence de retard. Donc c'est vrai qu'en termes de taux, plutôt des taux qui commencent à atteindre des niveaux qui sont beaucoup plus proches de leur valeur, enfin ce qu'on peut appeler la fair value dans le jargon financier, que ce qui était pricé il y a encore quelques mois. Et c'est vrai que d'un point de vue, par contre, action, on a toujours, sur les marchés des actions, on a toujours ce manque de visibilité par rapport à l'impact que la politique monétaire européenne va avoir sur la croissance et aussi par rapport à ce qui a été cité sur le conflit en Ukraine, avec la Russie.
Loïc Bécu, quelles conséquences vous voyez pour les investisseurs ?
Moi, c'est plutôt une bonne chose, parce que je suis gérant diversifié. Alors, gérant diversifié, pour l'instant, le monétaire, ça fait plus de 5 ans que les taux monétaires étaient en taux négatif. Donc là, on est repassé en positif. Je regardais avant d'arriver, là, on a l'Euribor 12 mois qui est à 1,91%, j'ai l'Euribor 6 mois qui est à 1,36%. C'est-à-dire, pour moi, gérant diversifié, je vais enfin avoir un buffer et améliorer le couple rendement risque de mes fonds, parce que j'ai enfin du positif en termes de rémunération sur le monétaire. La deuxième chose, c'est au niveau obligataire. Alors, au niveau obligataire, force est de reconnaître qu'avec la remontée des taux, la performance sur les obligations à 10 ans, elle est fortement négative depuis le début de l'année. Mais le rendement augmente petit à petit. Donc ça aussi c'est intéressant. Alors il n'augmente pas encore assez, mais il est sur une tendance plutôt haussière. Et ce que je voudrais juste rappeler, c'est que aujourd'hui, en fait, quand vous prenez une obligation à 10 ans française, elle a à peu près une sensibilité de 9. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les taux remontent de 1%, elle perd 9%.
D'accord.
Donc la dette française, elle a repris quasiment un peu plus de 2%, là, on va dire, sur les 12 derniers mois. Donc la dette française a perdu, en termes de performance, par rapport à cette problématique de sensibilité, 18% de performance. Donc c'est pas suffisant pour combler finalement les 2% de coupons qu'on peut avoir aujourd'hui sur la dette française. Mais une fois que le gros est passé, c'est plutôt intéressant pour la gestion diversifiée, parce que sur le plus long terme, j'aurai une rémunération, si ça se stabilise par la suite, autour de 2%, si ce n'est autour de 3% pour les taux à 10 ans. Ce qui va pouvoir m'améliorer le couple rendement risque, parce que malgré tout, sur les marchés actions, j'ai toujours beaucoup de volatilité.
Ouais. Vous êtes aussi à l'aise, vous, sur les taux ? Parce que l'obligataire, c'est pas facile, là, depuis quelques semaines.
Alors, l'obligataire, oui, on disait, c'est vrai qu'on a cette perspective où les taux remontent. On a un taux à 10 ans à 1,75 aujourd'hui.
Celui qui était investi il y a quelques semaines, on peut dire qu'il est passé un bon été.
De performance, ça a été très bien expliqué. On a des performances positives, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Les taux remontent, les performances sont négatives sur l'obligataire et notamment sur les taux souverains. Alors, les taux, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de diversification, on peut utiliser les taux souverains, les taux européens, les taux américains, selon son portefeuille. Après, on a tout le pan crédit investissement. Grade, le crédit, on va dire le plus sûr, et le crédit high yield. C'est vrai que c'est des classes d'actifs aujourd'hui où les spreads sont très élevés. On a toujours de l'incertitude, c'est un peu comme sur les marchés actions, il faut être vigilant sur les points d'entrée. Mais c'est vrai qu'on a des spreads qui sont aujourd'hui assez intéressants, et c'est vrai que ça peut être intéressant de considérer à renforcer sur, peut-être dans un premier temps, du crédit investment grade. Et c'est vrai que le crédit high yield, qu'à moins de duration, ça c'est un facteur intéressant de ce marché-là, peut être intéressant. Encore une fois, c'est vrai qu'à court terme, les spreads peuvent s'écarter encore à nouveau. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour un investisseur de long terme qui peut se regarder.
Après la Banque Centrale Européenne, viendra maintenant le tour des États-Unis. On va avoir pas mal de stats, pas mal d'expressions, et puis une réunion de la Fed. Là encore, on va jouer la comparaison.
Alors, au niveau de la Fed, il est évident que l'objectif de la Fed, c'est d'avoir des taux banque centrale supérieurs à 3%, donc on en est encore un peu loin, donc elle pourrait remonter les taux peut-être de 0,75 encore une fois au mois de septembre, alors que la banque centrale européenne est plutôt sur un taux d'équilibre autour de 2,5%. Oui, ça va encore avoir, mais alors, sachant que, comme le disait tout à l'heure, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, c'est quand même déjà bien intégré dans les marchés, parce que, en termes de visibilité, on a quasiment un calendrier qui est en train de se faire, d'autant plus qu'on l'a maintenant auprès de la Banque Centrale Européenne, parce qu'elle pourrait remonter ses taux jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, mm-hmm. que Christine Lagarde a laissé sous-entendre qu'elle passerait par 5 augmentations de taux. Et après, l'avantage, c'est qu'aux États-Unis, comme ça a été plutôt rapide, je reste persuadé qu'en fin d'année, le discours sera peut-être un peu plus accommodant, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dans les chiffres macroéconomiques américains, il y a quand même des impacts non négligeables aujourd'hui, du fait de cette hausse des taux, sur le marché de l'immobilier, par exemple, qui est très regardé par la Banque Centrale américaine.
Vous, et ce qui va se passer aux États-Unis, on va remettre en fait les compteurs à zéro parce que le différentiel va se réaccroître ?
Alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est, le sujet est complètement différent entre les États-Unis et la zone euro. C'est vrai qu'on a des politiques monétaires qui sont de plus en plus restrictives, mais les politiques budgétaires le sont également. C'est vrai qu'en Europe, on a quelque chose qui est assez différent, vu que les politiques budgétaires restent quand même elles soutiennent très fortement l'économie et le pouvoir d'achat. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a vraiment ce couple entre politique monétaire et politique budgétaire qui est là pour ralentir, essayer de faire en sorte que l'économie ne soit pas en surchauffe et faire baisser les anticipations d'inflation. Monsieur Powell a été très clair aujourd'hui, hier, pardon. Il a indiqué que la semaine prochaine, il y aura une hausse de 75 points de base du taux de la Banque centrale, de la Fed. On est sur un calendrier qui est assez clair. On a encore des hausses de taux à venir. Il y aura encore des hausses de taux jusqu'à ce que les perspectives d'inflation commencent vraiment à diminuer. Donc le mandat est clair. La Réserve fédérale reste vraiment droite par rapport à ce qu'elle a annoncé aux investisseurs. Et on peut s'attendre à encore des hausses de taux l'année prochaine. Mais le taux terminal sera atteint plus vite qu'en zone euro. Donc ça, c'est intéressant. Et donc il y aura cette séquence vraiment qui va se poursuivre dans les prochains mois.
Du coup, une fois qu'on se dit tout ça... Comment on voit se profiler finalement la fin de l'année boursière? En clair, un investisseur particulier qui fait sa petite revue de rentrée là, en se disant finalement l'été n'a pas été trop chaud, ça s'est plutôt pas mal passé. Et il doit s'attendre à quoi sur les marchés?
Alors, les marchés monétaires repassent en positif. Si on investit aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, ça c'est la première chose. Sur l'obligataire, il faut rester un peu prudent parce qu'on est quand même dans la dynamique de remontée des taux de la banque centrale, des banques centrales. Et au niveau des actions, on reste un peu prudent pour la simple et bonne raison que il y a des problématiques sur les visibilités dont je vous parlais tout à l'heure qui sont toujours assez inquiétants pour les investisseurs, notamment sur les actifs risqués qui sont les problématiques du prix de l'énergie qui sont toujours les problématiques de la guerre en Ukraine et les problématiques chinoises. Après, nous on essaye d'ouvrir un petit peu plus le spectre, par exemple sur l'international. Et sur l'international aujourd'hui, on a des marchés actions qui sont assez résilients, comme le marché actions indien. Donc qu'on peut regarder, qui profite en tout cas, qui est moins impacté par l'évolution des prix de l'énergie. On regarde aussi au niveau obligataire la dette émergente, parce que la dette émergente qui fait quasiment moins 20% depuis le début de l'année, vous avez des pays comme le Brésil qui ont déjà remonté 13 fois leur taux d'intérêt, ça on le dit pas, les taux d'intérêt brésiliens sont passés de 2% à quasiment...
C'est vrai qu'on les regarde moins.
Oui, ils sont passés quasiment de 2% à 14%. Ouais. Donc aujourd'hui, sur de la dette pays souverain, émergent, en plus c'est bien diversifié parce qu'il y en a quasiment 65 dans un vrai portefeuille, on arrive sur des rendements supérieurs à 7%, et en mélangeant un petit peu, on peut même arriver sur des rendements supérieurs à 13%. Avec des sensibilités qui restent faibles autour de 7. Ça, c'est des choses qu'on commence à regarder, d'autant plus que ça a bien corrigé, parce que ces politiques-là, en tout cas de banque centrale, sont tellement en avance par rapport à celles des pays développés qu'elles pourraient être un peu plus accommodantes dans le futur. Et ça pourrait se voir sur les marchés actions, notamment peut-être émergents.
Geoffroy, comment est-ce que vous voyez les choses se profiler pour cette fin d'année ?
Alors nous, on a un message de neutralité, que ce soit sur les actions ou sur les taux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il y a des opportunités, que ce soit au sein des marchés actions ou...
Il faut être neutre mais attentif, c'est ça ?
Au niveau des taux. Faut-il plutôt ce qu'on va appeler les positions de valeur relative entre des zones ou entre des secteurs, ou entre des typologies d'investissement. C'est vrai que sur les taux, on en a parlé beaucoup, juste pour revenir une minute dessus, on va plutôt favoriser les taux américains que les taux européens aujourd'hui, si on souhaite acheter de la duration.
D'accord.
Sur le crédit, on peut commencer à nouveau à regarder du crédit IG tout doucement si on souhaite augmenter ses positions.
IG, on rappelle, c'est investment grade.
Hein. Investment grade, tout à fait.
De qualité.
De qualité. Crédit de qualité. Maintenant, sur les actions, il y a quand même des choses à faire. C'est vrai qu'on privilégie plutôt les valeurs de qualité à prix raisonnable. Donc ça, c'est pas forcément que des défensives. C'est vrai qu'on est plutôt prudent sur les valeurs de croissance. C'est vrai qu'on a une récession qui quand même est dans les tuyaux, qui doit arriver. Donc il faut être prudent sur les marchés actions. Sur le directionnel actions, c'est vrai qu'on est assez prudent. Mais c'est vrai qu'il y a des valeurs qu'on peut aller chercher, notamment sur le secteur industriel, ou encore, c'est vrai que les banques, on va pas forcément renforcer, mais être surpondérés. Une légère surpondération nous paraît intéressante compte tenu de la remontée des taux qu'on vient d'avoir hier avec la Banque Centrale.
Merci à tous les deux d'avoir partagé ces regards ce matin sur les grandes thématiques qui font bouger aussi la tendance. Geoffroy Lenoir pour Aviva Investors France et Loïc Bécu pour Siena Gestion. Bon retour, bon week-end et à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous précipiter dans vos kiosques pour retrouver les échos patrimoine. À la une, l'immobilier cette semaine, le nouveau pouvoir d'achat immobilier des Français, comment l'inflation lamine le pouvoir d'achat des ménages, les tendances dans les métropoles et les petites villes, les prix parisiens, la fiscalité, le Pinel. Bref, vous saurez tout en partenariat avec BFM Business.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, il nous reste une demi-heure à passer ensemble pour continuer à vous accompagner dans le monde de vos placements et on suit toujours l'actualité boursière avec Stéphane Sauduteil depuis Technibourse. Rebonjour Stéphane.
Et la hausse s'accroît. Oui, c'est vrai qu'on reste toujours dans cette bulle spéculative sur des petites unités de temps depuis l'ouverture ce matin. À ce moment, elle n'est toujours pas démentie, en fait, mais on arrive, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une zone un peu compliquée d'un point de vue graphique, 6230, 6250. Je ne serais pas étonné qu'on se casse un petit peu le nez dans cette zone et qu'on cherche à consolider un petit peu. Alors, la consolidation que l'on pourra avoir aujourd'hui, c'est 6200 points maintenant, perdre une trentaine de points. Et puis, si ça s'accentue un petit peu, on pourra aller chercher les 6160, 6170 points. Mais on retiendra quand même qu'on a regagné un étage supérieur par rapport à ces dernières semaines. C'est un peu étonnant, mais on le doit, je crois, un plus finalement aux États-Unis. Les futurs sont très bien orientés et puis on a bien rebondi, comme je vous le disais également tout à l'heure, sur des niveaux techniques assez cruciaux sur les marchés américains. Et on voit également que le rebond du Nasdaq 100 booste un petit peu les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui a repris 11% depuis son point bas de mardi. On a regagné les 20 000 dollars sur la crypto-monnaie. Et on voit également les mesures de la BCE hier et puis les perspectives certainement encore de hausse de taux à venir ont dopé un petit peu l'euro-dollar qui se traînait un petit peu autour des 0,99 voire même un petit peu en dessous. Et là, on est quasiment à 1,001. Donc, c'est pas si mal. Moi, je reste toujours dans l'idée qu'il y a un potentiel de reprise sur l'euro-dollar vers un 1,003, 1,0350. Alors, pas beaucoup plus haut que les niveaux actuels, mais voilà, je m'attends pas à ce qui s'est fondre comme beaucoup s'y attendent. Je pense qu'on va rester dans cette zone entre 0,99 et 1,003 pendant vraiment pas mal de semaines, voire peut-être de mois. Donc finalement, une semaine qui avait été un petit peu anticipée négativement par les investisseurs en début de semaine, et puis finalement, ils sont un petit peu soulagés avec la BCE, même si c'est pas très réjouissant. Pour l'instant, ils voient le verre à moitié plein, surtout grâce à la progression des États-Unis ces derniers jours, qui, comme je vous le disais, ont bien rebondi sur des niveaux techniques. Alors, on verra si ça tient la semaine prochaine ou si c'est finalement une hausse un petit peu feu de paille. Donc, pour reperdre vraiment ce momentum que l'on a acquis là depuis quelques heures, faudrait repasser clairement en dessous des 6160 points. Donc, on a un petit peu de marge. Est-ce qu'on en arrivera à déborder les 6250, 6300 qui ouvriraient là un potentiel plus important? Je pense que ce n'est pas encore gagné à l'heure où on parle.
Stéphane Sauduteil et Technibourse qui nous accompagnait ce matin. Merci Stéphane pour ce regard. Le marché parisien, lui, progresse d'un 69%, 6229 points. On grimpe du même acabit ailleurs en Europe, plus 1,87 pour l'Eurostock 50. Et puis du côté des devises, l'euro est en ce moment à 1,0088.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et l'on retrouve les équipes de Morningstar et ce matin Mathieu Caquineau. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Avec vous, on fait un point sur les fonds actions marchés émergents. Comment s'en sortent les gérants cette année ?
Bah écoutez, c'est un environnement qui est compliqué pour les marchés émergents. Hein. Si on regarde sur les 12 derniers mois, l'indice action MSCI Emerging Markets, hein, qui suit la performance des marchés boursiers de ces pays émergents, eh bien, il est en baisse de 24% en dollars. Alors la baisse, elle est moins importante si on la mesure en euros, hein, grâce à un effet devise qui est positif pour les investisseurs européens, mais néanmoins toujours en territoire négatif. Si on regarde de plus près le comportement des marchés émergents, il est finalement à l'image du reste du monde, à savoir que les secteurs de l'énergie, des matières premières, des services financiers, notamment les banques, eh bien, ont surperformé du fait de retour de l'inflation, des tensions géopolitiques, mais aussi à cause des changements de politique monétaire à travers le monde. Les taux d'intérêt plus élevés sont généralement un bon signe pour les banques et assureurs. En termes de région, c'est la Chine, de loin le plus gros poids de l'indice, qui a plus souffert depuis le début de l'année. La Russie, hein, évidemment, a contribué à la baisse, puisque techniquement, les valeurs russes ont été exclues de l'indice en début d'année. C'est le poids de la Russie, c'était 3% dans l'indice à la fin de l'année dernière. Comparativement, finalement, le Brésil, hein, où il y a des grosses sociétés qui sont dans l'énergie avec Petrobras, il y a aussi pas mal de banques, eh bien, c'est un marché qui a fait mieux que le reste, tout comme le marché indien également.
Voilà donc quelques idées sur les conditions de marché de ces fonds actions, marchés émergents. Est-ce qu'il y a dans ce contexte des gérants qui sont en difficulté ?
Oui. Un certain nombre de fonds de gérants sur les marchés émergents sont en difficulté, et donc certains bien notés par notre équipe de recherche. Donc même s'ils sont en difficulté à court terme, on pense que ça reste des bonnes options sur le long terme. Je pense notamment au fonds Fidelity Emerging Markets, qui a cédé beaucoup de terrain cette année. Il est derrière plus de 90% de ses concurrents, donc c'est pas brillant. En fait, le portefeuille, il avait une exposition importante à la Russie, et en parallèle, il était peu exposé à l'énergie, aux banques ou aux assureurs. Donc un cocktail qui n'a pas réussi à ce fonds-là. Mais à notre avis, ça reste un bon choix sur le long terme. Nick Price, le gérant, il est en place depuis 2009. Il est soutenu par les différentes équipes de recherche de Fidelity. Des équipes qui se démarquent à la fois parce qu'elles sont de bonne taille, mais aussi par leur qualité. Et en fait, Nick Price, lui, va chercher des idées dans les portefeuilles de Fidelity sur les marchés émergents localement. Et ça a bien fonctionné sur le long terme. Donc nous, on reste confiants sur ce fonds dont la part grand public est notée bronze. Un autre fonds également en difficulté temporaire, mais qui mérite, à notre avis, toujours la confiance des investisseurs, c'est le fonds BGF Emerging Markets, hein, géré par BlackRock. Là, le gérant Gordon Fraser, il construit le portefeuille d'abord en choisissant les pays qui lui semblent le plus attractifs, et ensuite, au sein de chacun de ces pays, il choisit les valeurs les plus prometteuses. Et ça, c'est pas facile à faire. Les paris sur les pays sont difficiles à réussir systématiquement, mais au fil du temps, le gérant a démontré un certain talent en la matière, même s'il a eu moins de réussite récemment. Mais sur le long terme, il a construit un historique de performance tout à fait respectable depuis 2017. On pense qu'il a les moyens de renouer avec la surperformance à long terme. Attention quand même aux frais, hein, ici, qui peuvent être assez importants en fonction des parts de ce fonds qui vous sont accessibles.
Est-ce qu'il y a quand même des fonds avec plus de réussite récemment ?
Oui, quand même, il y en a quelques-uns. Parmi nos fonds préférés, notons le fonds Lazard Emerging Markets, hein, qui a bien tiré son épingle du jeu depuis le début de l'année. Ce fonds, il est dirigé par James Donald et son équipe. Et en fait, nos analystes l'aiment bien parce que ici, la stratégie d'investissement, elle est déjà très claire et elle est disciplinée. Ce qui fait que le fonds, il vise avant tout les valeurs jugées décotées, et il n'achète pas les valeurs qui sont trop chères. Alors, ça peut coûter en performance à court terme. On l'avait vu en 2019 et en 2020, où le fonds, eh bien, il était resté à l'écart, notamment des géants de la technologie en Chine, qui alors enregistraient des performances stratosphériques. Mais cette prudence, finalement, matérialisée aujourd'hui par une sous-pondération sur la Chine, eh bien, cette prudence, elle commence à porter ses fruits cette année. Et sur le long terme, c'est un fonds qui a aussi de bons résultats, et donc qui reste parmi nos convictions. La part grand public de ce fonds est notée bronze.
Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquineau, Morningstar, qui nous accompagne le vendredi pour quelques idées de fonds. Le marché parisien, donc en belle forme ce matin, on progresse d'1,7%, 6230 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Sarah Thirion et François Monnier sont en plateau pour répondre à toutes vos questions. Sarah Thirion pour TPI Cap et François Monnier pour la rédaction d'Investir. Vous êtes prêts ?
Oui. Allons-y.
Eh bien, on est parti avec cette question que vous envoie Jean-Pierre. François, il a trop d'autos dans son portefeuille, Jean-Pierre. Il nous précise qu'il a du Stellantis, du Renault et du Michelin. Il voudrait donc alléger et il se demande laquelle il faut vendre.
Ben, si on veut alléger parmi ces trois valeurs, je recommanderais de vendre plutôt Michelin. Alors Michelin, c'est le champion incontesté dans son domaine d'activité. Mm-hmm. Il est leader devant Bridgestone. Il est présent sur tous les produits, hein, que ce soit les pneus pour l'automobile, pour les véhicules particuliers, pour les camions, pour les engins de spécialité, notamment pour les mines, et là où il y a des très très grosses marges. Le succès de Michelin, bien sûr, c'est le pricing power, mais ça peut être aussi son point faible, parce que on se rend compte que sur son chiffre d'affaires, c'est 70% de la revente, et on a d'un côté une forte flambée des prix, que ce soit de l'énergie, du caoutchouc, et donc il faut absolument passer ces prix au consommateur, mais le consommateur qui subit une inflation qui est extrêmement forte, hein, 9% dans la zone euro, à un moment donné, il va devoir faire des arbitrages. Donc, est-ce qu'il va toujours privilégier d'avoir les meilleurs pneus ? J'ai envie de dire, c'était aisé, même si j'exagère le trait de dire, mais c'était aisé d'avoir du pricing power dans son métier Michelin quand l'inflation est raisonnable. Mais quand l'inflation devient déraisonnable, peut-être que le consommateur va se dire, finalement, je peux trouver un pneu peut-être de pas d'aussi bonne qualité, mais... un peu moins cher ou nettement moins cher. Et donc là, on va avoir des mois, des trimestres qui peuvent être difficiles.
D'accord.
Et donc c'est pour ça que je vendrais Michelin. Stellantis, j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus belle des trois, largement la plus belle des trois, puisque on a un ratio cours sur valorisation avec un PER de moins de trois fois, donc c'est une des plus faibles valorisations de la cote de la Bourse de Paris, alors qu'on a des marges de 14%, marge opérationnelle de plus de 14% au premier semestre. On aura encore des synergies en cours avec les Italiens, entre les Italiens et les Français. On a un rendement de 9%, et donc ça peut être très intéressant et un excellent management. Et puis Renault, c'est le pari. C'est une histoire catastrophique boursière et industrielle, mais il y a deux paris. Le premier pari, c'est de dire, ça y est, ils vont enfin vendre et lancer des modèles qui séduisent les consommateurs après un énorme trou d'air. Il faut bien le reconnaître, ils ont raté tout ce qui était SUV, etc. Donc là, peut-être qu'il y aura à nouveau des modèles qui plaisent. Et puis, le deuxième pari, c'est cette découpe du groupe en deux morceaux. Un morceau, on va dire, polluant, qui est les moteurs thermiques qui vont essayer avec lesquels ils vont essayer de faire rentrer des Chinois et peut-être Aramco, un pétrolier, et puis garder le côté électrique. Et donc, il peut y avoir une equity story, une histoire industrielle à raconter aux investisseurs qui peut plaire. Donc, je garderai Stellantis et Renault et je vendrai Michelin.
Sarah, vous avez une opinion différente ou finalement le choix de François vous satisferait aussi ?
Sur Renault, pas trop d'intérêt. Sur l'auto, pas d'urgence non plus, compte tenu des tensions sur les appros et puis après des grandes questions qu'on peut avoir sur la demande structurellement. Donc, oui, je vais dire, je vais faire comme François.
C'est bien. C'est plus simple de faire comme François. Question d'Agnès. Achèteriez-vous du Trigano après la baisse de 50% depuis le début de l'année, Sarah ?
Non. Non, parce que...
Pourquoi ?
Bon, alors, les attentes du consensus sur 2022 ont bien intégré le fait qu'on était dans une année de pénurie de châssis, de base roulante, et donc ça allait pénaliser, évidemment, le momentum de cette année. Le problème, pour moi, il est un peu au-delà de 2022, et là, c'est beaucoup moins intégré dans le consensus. C'est quand même une valeur de consommation discrétionnaire et qui, pour le moins, adresse des classes moyennes. En fait, on a des classes moyennes qui vont se retrouver avec moins de pouvoir d'achat, des taux plus élevés et un prix du gazole plus élevé. Donc, il faut poser en moyenne 80 000 euros sur une table pour un camping-car neuf. C'est quand même pas forcément intuitif. D'ailleurs, Winnebago, Trigano a toujours dit qu'elle était une valeur de conso discrétionaire qui pouvait être chahutée dans des périodes difficiles. Mm-hmm. Et Winnebago, un comparable américain, a dit déjà constater une baisse des ventes. Or, quand je regarde le consensus de Trigano, En 2023, je ne vais pas dire de bêtises, le consensus attend 10% de croissance du chiffre d'affaires, certes sur une base facile, et une amélioration de l'EBIT de 3 points. Si on regarde les comparables américains, que ce soit Winnebago ou Thor, c'est un consensus qui est placé sur une décroissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et un drop-through sur le résultat opérationnel qui est du double en termes de décroissance. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est plus structurel et plus long terme. En fait, le véhicule de loisirs, malheureusement, est concerné par les ambitions de la Commission européenne à horizon 2035. Et ces ambitions, elles supposent qu'il n'y ait plus de moteur thermique qui roule en 2035. Ouais. Un camping-car neuf, ça a en général une durée de vie moyenne de 10 ans. Qui va acheter un camping-car à 80 000 euros en pleine crise, sachant qu'en 2035, il ne peut plus rouler?
Bah, ce n'est pas qu'il ne peut plus rouler, la commission, c'est qu'on ne peut plus les acheter.
On ne peut plus les acheter, mais sachant qu'il aura une valeur de revente qui va évidemment être moindre. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va peut-être avoir une période d'attentisme sur le camping-car neuf, que les gens dans cet intervalle vont peut-être acheter du camping-car d'occasion en attendant soit peut-être une bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne fasse une exemption pour les véhicules de loisirs parce qu'ils ne roulent pas tous les jours, ils ne polluent pas tous les jours, ça c'est vrai, soit qu'il y ait un véhicule de loisirs électrique qui sorte et qui présente une autonomie qui soit suffisante pour ce genre de voyage. Or aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il n'y en a pas. Alors après, évidemment, il y a des gens qui se raccrochent à la Valo en disant « Ah bah oui, mais c'est pas cher ». C'est vrai que c'est pas cher, mais sur la base d'estimations 2023, qui sont peut-être complètement déconnectées de la réalité.
Oui, bien sûr.
Donc, non. Pour l'instant, non.
Bon, non, pas de Trigano, du camping-car ou pas de camping-car?
Moi, je suis plus optimiste. Plus optimiste parce que je pense quand même qu'il y a une bonne partie des mauvaises nouvelles qui sont dans les cours. Là, le vrai sujet de Trigano, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver à court terme des châssis. Hein. Concrètement, ils achètent des véhicules utilitaires à Stellantis et ils les transforment en camping-car. C'est un peu ça le modèle économique. Alors pas qu'à Stellantis, mais Stellantis c'est un des grands acteurs. Et comme Stellantis, lui, il a déjà du mal à pouvoir produire des véhicules pour lui, bien sûr, il n'en vend pas à d'autres. Donc on est sur un sujet où finalement, ils ont vendu, commercialisé aux alentours de 53 000 camping-cars l'an dernier. Là, ils vont passer de 53 000 à 47 000. Après, quid, c'est quelle sera la... Donc le premier sujet, c'est comment on arrive à produire, parce que la demande, elle est monstrueuse. Et après, la deuxième question, c'est est-ce que la demande va rester monstrueuse? Entre les deux, il y a un gap, il y a un écart qui est très important. Donc déjà, il va falloir gérer ce problème de rupture d'approvisionnement.
Bien sûr.
Après, bien sûr, on a cette problématique qu'on a aussi chez les constructeurs automobiles.
Oui, ça concerne tout le monde, là, pour le coup.
Qui est de dire, est-ce que demain, s'il n'y a plus de moteur thermique, comment on fait? Et peut-être qu'il y aura des dérogations, parce que l'histoire du camping-car, c'est un peu comme l'histoire de la voiture de collection. Est-ce que les gens qui ont des voitures de collection ne pourront plus rouler? Parce que les voitures de collection sont avec des moteurs thermiques. Donc est-ce que la Commission aura des raisonnements, on va dire, entre guillemets, un peu plus intelligentes, qui est de dire, si vous utilisez ce véhicule... pas tous les jours, parce que c'est ça le sujet. Hein. Le problème de la voiture thermique, c'est la personne qui prend son véhicule tous les jours et qui fait 30 km pour aller au travail et revenir à son domicile.
Ouais. Mais parfois même moins de 30 km.
Voilà, mais la voiture, par exemple, la voiture de collection, voire même, peut-être moins de 30 km, mais la voiture de collection, vous allez l'utiliser de temps en temps le week-end, de temps en temps pendant les vacances. Donc l'impact d'émissions de carbone, de CO2, il est beaucoup moindre. Donc il faut, je pense, être... on va aller vers des solutions, j'espère, vers des solutions plus intelligentes, que ce soit pour les voitures de collection, mais aussi peut-être sur les camping-cars. Et bien sûr, à terme, l'avenir, c'est un camping-car qui fonctionne à l'hydrogène ou un camping-car qui fonctionne à l'électrique. Comme c'est le même sujet pour les camions. Est-ce qu'il n'y aura plus de camions thermiques? Mais en attendant, il va falloir trouver peut-être des solutions, on va dire, raisonnables et pas imposer des mesures radicales.
Voilà donc, Agnès, votre réponse sur Trigano. Question que vous envoie Justine. Quel regard portez-vous sur les autoroutes et plus particulièrement sur Eiffage? Cela ne baisse pas depuis janvier, remarque-t-elle, mais cela ne monte pas non plus.
C'est vrai, c'est vrai. On va dire que c'est un peu défensif en ce moment. C'est défensif parce que déjà, vous avez près de 85% des profits qui viennent des autoroutes. Et les autoroutes, ben, ça va plutôt bien, voire même très bien, parce qu'on est, on a des bases de comparaison qui sont extrêmement favorables pour FH. Puisqu'on a eu des périodes de confinement où plus personne n'utilisait sa voiture,
plus personne ne pouvait bouger.
On pouvait parler au sport d'hiver, etc. Donc, et là, maintenant, ben, on revient dans une situation qui est normale, voire même qui est un peu exceptionnelle, puisqu'on le voit, les Français ont tendance à partir en vacances plutôt en restant dans l'Hexagone que d'aller en dehors de nos frontières. Donc, on a une activité qui est extrêmement solide. On a eu un premier semestre qui montrait que la chiffre d'affaires, il avait progressé de 8% chez FH, et on a eu une progression de l'ordre de 36% des profits. Donc, on est sur des niveaux de profits qui sont supérieurs à 2019. Donc, l'activité va bien. Maintenant, bien sûr, il faut trouver des relais de croissance. Donc, ils ont lancé quelques petites pépites, notamment dans la production d'énergie photovoltaïque. Et puis, on sait que les autoroutes, mais il y aura probablement des débats politiques qui ne manqueront pas dans les mois prochains. Mais il y a une indexation des péages, des tarifs sur l'inflation. Donc, normalement, FH est un petit peu immunisé contre l'inflation. Après, se pose la question sur l'ampleur de la récession qu'il pourrait y avoir en 2023, sachant que FH est très européen et très français. Et là, pour l'instant, ils ont un carnet de commandes qui est en progression de 18%, mais on sait que les carnets de commandes, ça peut vite faire pchit. Donc, on a quand même une petite question sur le BTP. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est plutôt FH qui serait ma favorite. On a un rendement de l'ordre de 4% et on a un niveau de valorisation cours sur bénéfice inférieur à 10 fois.
FH, vous le regardez ou pas?
Ouais, non, le mix protège quand même le biais, enfin l'autre biais, l'autre pendant, et cette exposition sur les concessions autoroutières. Donc, je suis d'accord aussi avec François.
Voilà donc deux avis partagés, Justine, sur ce cas d'Eiffage. On passe à la question de Charlotte. Que pensez-vous de JC Deco qui a chuté de 40% cette année? Et elle fait remarquer, Charlotte, que c'est bien plus que le secteur.
Oui, c'est vrai. Elle a raison. Je crois que le secteur, c'est de 16% depuis le début de l'année, quelque chose comme ça. J'aime bien Deco à long terme. C'est une très jolie société. Communication extérieure, c'est très faible dans les dépenses globales des annonceurs. C'est moins de 10%, alors qu'on passe plus de 20% de notre temps à l'extérieur de chez nous. C'est une société dont le management est remarquable. Donc, il n'y a absolument rien à dire. Qui se digitalise en plus, donc qui est à l'écoute des disruptions. Donc, ça, c'est bien. À court terme, c'est plus problématique parce que comme tous les acteurs du secteur média, ils sont concernés par le ralentissement économique. Quand il y a des périodes de trading down, la première chose que font les annonceurs, c'est qu'ils coupent leur budget, ils minimisent leur budget marketing et leurs dépenses de communication. Pourquoi ? Là, on se retrouve dans un contexte à la fois où la croissance décélère, les ménages ont moins de pouvoir d'achat, les taux montent, donc les entreprises ne communiquent pas dans le vide, d'une part, et puis elles essaient aussi de protéger leurs marges. Donc, on a cette dépendance au cycle, ça c'est la première raison. La deuxième raison, plus spécifique à Deco, c'est la Chine, avec une exposition à peu près 20% du chiffre d'affaires, dans un pays où la croissance économique ralentit, qui continue et s'entête sur cette politique zéro Covid. On a aujourd'hui à peu près 30% du PIB qui est confiné ou presque. On voit que les trajets nationaux cet été en train ont chuté sur un plus bas historique de 8 ans. Donc il n'y a pas grand-chose qui va en Chine. Et le groupe y est exposé, et il est exposé sur tous les sujets, mais notamment sur la partie transport. Le troisième problème, c'est que du coup, une fois que j'ai dit les deux premiers éléments, c'est une cyclique, mais c'est en plus une cyclique avec une structure de coûts essentiellement fixe. Donc en fait, l'EBITDA est très sensible à la variation du chiffre d'affaires. Et donc, pour cette année, compte tenu de la réalisation de S1 et de ce qu'ils ont annoncé sur le T3, je ne suis pas très inquiète sur les attentes du consensus. Je suis en revanche plus inquiète sur les attentes du consensus l'année prochaine, parce qu'ils attendent une croissance du chiffre d'affaires et une croissance de l'EBITDA. Et s'il n'y a pas beaucoup de croissance de chiffre d'affaires, voire de la décroissance de chiffre d'affaires, une base de comparaison moins facile, l'EBITDA va baisser big time. Et donc, les attentes d'être déçus. Voilà, donc pour cette raison-là, j'aime bien à long terme. Malheureusement, le momentum à court terme est super incertain. Donc, comme on est sur les multiples historiques en termes de valo, mais que c'est basé sur des estimations qui sont peut-être à risque, pour l'instant, je m'abstiens.
Vous avez une vision plus optimiste ou pas sur JC Deco?
Non, je suis 100% d'accord avec Sarah sur son analyse.
Bon, donc c'est plombé, quoi.
Mais c'est une belle valeur. Donc,
cher.
Voilà, on peut éventuellement. Ça a quand même perdu 40%, donc ça d'après le prix, le terme cher et c'est tout à fait relatif. Mais le sujet, c'est que tant qu'il y a les confinements en Chine, je vois pas le titre JC Deco remonter. Donc c'est un vrai call sur la Chine. Donc le vrai redémarrage, le vrai rebond du titre, c'est ça viendra de Chine. Et donc dès qu'il y aura du déconfinement, on va un titre qui va monter très très fort. En attendant, bah il faut faire le dos rond.
Voilà, Charlotte.
Mais je ne vendrai pas à ce prix-là.
Comment ?
Je ne vendrai pas à ce prix-là.
Ah, vous ne vendriez pas à ce prix-là ?
Non.
On n'achète pas, mais on ne vend pas.
Disons que ça dépend si vous en avez. Si vous en avez en portefeuille, je pense qu'il faut attendre les déconfinements. Un jour, il y aura peut-être un changement de politique.
On parle aussi d'un ARN chinois.
On parle d'un ARN chinois. On attend même sur le renouvellement du mandat du président chinois. Et donc, il y a un comité de bureau prochainement. Donc, il y aura peut-être des nouvelles qui seront dévoilées dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc, en attendant, c'est une société qui regorge de cash. Donc, on est sur un modèle économique où ils ont les moyens financiers, de gros moyens financiers. On parle même d'acquisition. Donc, ils peuvent faire des acquisitions si jamais le secteur des médias se mettait à baisser parce qu'ils trouvaient que les prix étaient trop élevés. Donc, on a une société qui est habile et qui peut se réorganiser.
Voilà donc votre regard, la réponse à votre question sur JC Deco. Charlotte, question de Simon. Quel est votre conseil sur Veolia Environnement, François ?
Sur Veolia, on est à l'achat. L'achat est devenu un peu moins fort parce que contrairement à Deco, c'est une société qui est très endettée. Alors même s'ils ont couvert une partie de la dette, etc., quoi, il faut renouveler. Maintenant, on emprunte à des taux beaucoup plus élevés.
C'est plus la même.
C'est le retour à la normale. Mais en attendant, ce qui est intéressant sur Veolia, c'est qu'ils ont racheté 60% de l'activité du principal concurrent qui était Suez. Donc ils ont récupéré en fait toutes les activités hors de France. Et ça a été fait le 18 janvier dernier. Et maintenant, on a déjà des premières synergies. Au premier semestre, ils ont fait 52 millions d'euros de synergies. Sur l'ensemble de l'année, Suez, ça devrait générer une amélioration du bénéfice net par action de 10%. Et en 2024, l'arrivée de Suez, c'est 40% de bénéfices en plus. Donc l'opération est magnifique. Simplement, s'il y a récession, il y aura moins de gestion des déchets. Sur la partie eau, c'est beaucoup plus défensif. Et les contrats sont indexés sur l'inflation. Donc là, le groupe, il est bien protégé.
D'accord.
Mais les déchets sont bien sûr extrêmement cycliques. Et vous avez de la dette. Donc ça ne peut pas faire des merveilles à court terme.
Vous avez une opinion
tout
pareil. Il a tout bien dit.
Bon. Bien expliqué.
Merci.
Allez, il nous reste une petite minute pour répondre à Alex, qui voudrait une idée de valeur qui pourrait surprendre positivement sur sa prochaine publication.
Alors, je pense à Infotel.
Infotel.
Voilà, qui est un acteur de services informatiques et qui fait aussi des logiciels avec des compétences qui sont bien reconnues sur tout ce qui est big data, mobilité. Et ça se voit et ça se passe bien puisque le groupe a déjà publié un chiffre d'affaires assez en croissance de plus de 15,5%, dont une croissance de 24% sur la partie logicielle. Donc notre analyste, Gilbert Ferrand, table sur un ROC au premier semestre qui sera publié là le 21 septembre en progression de 40%. C'est en plus un groupe qui a les moyens d'amortir un peu les chocs parce qu'ils ont une structure de coûts qui est flexible, parce qu'ils ont des contrats à long terme, parce qu'ils sont en train de faire un move vers l'offshoreisation, le logiciel, le conseil, qu'ils ont maintenant les royalties de IBM et qu'en plus, ils ont arrêté les actions gratuites, ce qui venait régulièrement plomber les résultats. Les ambitions 2026, elles sont sympas. C'est 380 millions d'euros de chiffre d'affaires à cet horizon-là. Et un doublement à l'intérieur de ça de la part des logiciels. Ce qui veut dire que théoriquement, la profitabilité devrait s'améliorer. Enfin, c'est une valeur qui n'est pas très chère. On doit être autour de 9 fois en EV sur EBIT, ce qui est bien en deçà des métriques historiques, ce qui est en deçà des métriques historiques, en deçà des métriques transactionnelles. Et les deux dirigeants ont 75 et 76 ans.
Bon.
Donc je leur souhaite de vivre 120 ans, mais ils vont peut-être chercher une succession.
François Monnier et Sarah Thirion répondaient à toutes vos questions. Sarah pour TPI Cap, François Monnier pour la rédaction d'Investir. Merci à tous les deux. Dans un instant, 60 minutes business avec Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Quel est votre programme du jour ?
On va parler des ministres européens de l'énergie qui se rendent à Bruxelles. Ils vont discuter des mesures destinées à calmer la crise. On va voir que les entreprises énergivores se trouvent au pied du mur. On parlera taux d'usure également. La moitié des prêts IMO refusés en ce moment en raison de ce taux d'usure. Faut dit François Villeroy de Gallo. Il l'a dit ce matin sur Good Morning Business. Eh bien, Bérangère Dubulle, l'Union des intermédiaires de crédit, va lui répondre dans 60 minutes business. Et puis, on parlera des éleveurs laitiers de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Coût de l'énergie, aléas climatiques, politique de distributeurs. On va se demander si le secteur du lait est en danger avec Ghislain de Viron qui sera avec nous sur le plateau. Et puis évidemment, à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine.
C'est 60 minutes business, c'est avec Sandra Gandoin. Dans un instant, le marché continue à grimper pour le moment, plus 1,51%. Et nous, on se donne rendez-vous lundi matin à 10h. Très bon week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.